pas à l'école, dans la population. Donc partant de ce constat, en lien avec la création du syndicat de bâtiments, etc., ils vont se mettre à construire, bah justement partout dans la zone libre, surtout en Catalogne, de nouvelles écoles, et vont réussir à la prouesse de réussir à scolariser un nombre assez considérable d'enfants. Pour éviter aussi les bombardements sur les grandes villes, le rapport de syndicats de transports en commun, de tramway, etc., faire en sorte de décentraliser ces écoles pour avoir à éviter cette crainte permanente aux enfants, quoi, et qui n'était pas qu'une crainte. D'expérimentation d'une école justement en autogestion, puisque la théorie était nettement développée que les élèves devaient prendre en charge la gestion de leur école. Là, pour le coup, ils vont concrètement s'inspirer de tout ce passé, d'essais d'écoles révolutionnaires et anarchistes qui s'étaient produits dans les années 10, les années 20. Comme par exemple, ils vont organiser faire une importance pas possible au enfin pas possible une grande mettre une grande importance à la présence de cours d'art plastique, aux élevages d'animaux, et aux ateliers. Faut dire que ces écoles s'ancrent pas mal dans ayant pour référence les Athénées, qui s'était beaucoup développé dans les années 20, notamment grâce à la FAI, la Fédération anarchiste ibérique, dans lesquelles justement beaucoup de, enfin, qui s'ancraient dans les quartiers ouvriers pour faire de l'éducation populaire, pour au lieu d'aller à la messe les dimanches organiser des sorties groupées justement qui pour le coup réunissaient un plus large public de jeunes enfants, des femmes, des hommes pour aller faire des sorties, des marches, pour débattre en même temps, pour improviser des conférences, etc. Et d'un autre événement qui est quand même la mort de Francisco Ferrer, une des causes de la création de la CNT, justement de cette expérience qui avait été faite par ce pédagogue, de faire une école où la place de l'éducation en extérieur était aussi très grande, et la place des élèves dans la gestion et dans la prise de décision, celle aussi dans la place qu'ils avaient dans le choix des pédagogies et de l'éducation était assez grande, quoi. 21 heures pile. Dis donc.
21h, normalement, c'est l'heure à laquelle on rend l'antenne. Ça va, il n'y a pas d'émission après. Ça y est, t'es fini.
Mais, oui.
Ah, bah dis donc. Tu as fait court ce soir.
Bah, j'ai fini pour 21h.
Voilà.
Parfait.
Bon. D'autres choses à dire, mais on fera pas d'annonce de voilà, il n'y avait pas de toute façon.
Non,
très peu.
L'annonce principale, c'est la fête des 40 ans du lycée autogéré de Paris.
Voilà.
Dont on va redonner les dates.
24, 25 et 26 juin au lycée autogéré de Paris. Donc je rappelle pour les auditeurs et les auditrices, 393 rue de Vaugirard, dans le 15e, et c'est entre Convention et Porte de Versailles.
Ça c'est l'annonce essentielle du jour.
Voilà. Et nous, la semaine prochaine, vous retrouvez la semaine prochaine donc le Monde Merveilleux du Travail pour une émission avec un travailleur social, en tout cas, sur les travailleurs sociaux confrontés au monde marchand. Bon, C'est comme toujours, hein, ça, nos émissions elles partent dans le... On donne un thème, puis en fin de compte, ça part dans tous les sens. Mais bon.
Ben oui, mais...
Mais c'est comme c'est, ça c'est... nous plaît. Bon.
C'est une certaine liberté.
Avant de dire au revoir, vous voulez faire une conclusion, vous voulez...
Allez, conclusion.
Repartons pour 40 ans et ouvrons 40 lycées autogérés partout où il y en a besoin.
Bah, va falloir faire la révolution alors. Ouais.
Ça, c'est eh bien allez, soyons, faisons
c'est
la révolution.
L'optimisme. C'est l'optimisme.
Natacha, non, rien. Embrasse tes parents, tous ils sont pas venus, ces feignants-là ce soir. J'espère qu'ils nous écoutent.
Je sais pas si tu sors du studio ce soir.
Je vais pas les recroiser dans les manifs. Hein. Bon, bah, bon, on remercie tout le monde alors. Non, je sais pas, tu voulais faire une conclusion ou pas? Oui. Mais oui, elle m'entend pas là, pas de casque, forcément.
Oui. Conclusion?
Conclusion. Je conclue?
Non. Bon, voilà.
Concluons?
Non, il n'y a pas à conclure. Bon, c'est pas grave. Voilà. Bah, moi, je remercie donc Natacha, Pascal, d'être venu pour la seconde Merci. Fois. Et puis, on va faire revenir troisième fois, Pascal. Au moins lui.
Allez.
On sait qu'il est moins causeux que Natacha qui nous pourrit notre fin d'émission. Là. Hein, heureusement qu'il n'y a personne derrière. Et puis, bah, on remercie les auditeurs aussi de nous avoir écoutés. Sylvie, qui a appelé par deux fois. Et puis, voilà, ceux qui nous écoutent à travers le monde. Je pense à Laetitia, dite Letty, dans les Pyrénées-Orientales. Si elle nous écoute ou pas ce soir, tant pis. On l'embrasse quand même. Et puis, qui d'autre? Tout le monde.
Surtout tout le monde.
Et Daniel, qui n'a pas appelé ce soir. Alors là, je suis très déçu.
Oui. Pas sûr.
Je lance le générique et après on va quand même mettre une petite musique que nous a imposé les Natacha. Mais ça fait rien. On va entendre ça après le. C'est G4 Tool. Ça te plaît? T'en as rien à foutre. Bon, à la semaine prochaine, 19h30 pour le Monde Merveilleux du Travail. Merci à tous, salut et puis à bientôt. Puis au 24 juin. 24-26 juin.
Vous avez tous, à un moment donné ou à un autre de votre existence, ou même encore maintenant, flirté avec le mouvement anarchiste, enfin les mouvements libertaires.
D'abord, faut plus de gouvernement, puis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement.
Et d'un cœur fraternel, nous réaliserons l'idéal libertaire.
Car moi, je veux.
Que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet.
Vive la révolution.
Vous aimez la radio? Marre de la pub?
Vous êtes libertaire?
Marre des radios étatistes?
Marre des capitalistes qui orientent l'information.
Alors soutenez Radio Libertaire.
Téléchargez le bon de souscription sur radiolibertaire.net. Retournez-le à Radio Libertaire, 145 rue Amelot, Paris 11e. Accompagné d'un chèque ou d'un virement à l'ordre de DMC. Radio Libertaire, 89.4 MHz.
La radio autogérée de la Fédération anarchiste.
La voix sans Dieu, sans maître
et sans publicité. Je sais plus ce qu'il faut dire, puis lis tout le truc.
On reprend le truc.
Ouais, attends.
Le proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et comme le générique vient de vous le révéler, c'est bien le proton se rebiffe. Ce soir, nous allons parler d'un livre de Christelle Tarot, dont le titre est « La prostitution coloniale, Algérie, Tunisie, Maroc, 1830-1962 », paru chez Payot. Et le titre est fort heureusement tout à fait clair. Il s'agit d'analyser ce qui s'est passé du point de vue de la prostitution et en particulier du point de vue des prostituées dans les colonies maghrébines françaises, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Et ce livre a une thèse assez intéressante à laquelle, a priori, on ne s'attendrait pas. Bien entendu, c'est un livre extrêmement riche, en documents en particulier, qui va nous montrer les aspects, en général assez peu ragoûtants, de cette prostitution pendant l'époque coloniale. Mais c'est un livre qui a une idée derrière la tête. Et cette idée, elle est la suivante. Elle dit que l'attitude, les structures, les réglementations introduites par le pouvoir colonial, par la France, dans les sociétés maghrébines, dans le domaine de la prostitution, ont été plus complexes qu'on ne croit. Bien entendu, la première évidente conséquence, c'est celle classique sur ce que c'est que la prostitution dans énormément de sociétés, c'est-à-dire une domination masculine et qui, dans les sociétés coloniales, se double à ce moment-là d'une domination genrée. Oui, mais selon le livre de Christelle Tarot, les choses ont été un petit peu plus compliquées. Et Christelle Tarot propose une lecture de cette situation de la prostitution depuis le début de la conquête française du Maghreb en 1830 jusqu'à son départ en 1962, eh bien, une lecture où les prostituées, les travailleuses du sexe, sont des gens qui vont avoir une relation un peu bizarre, un peu dérangeante, mais pas du tout au sens où on l'entend habituellement, envers non seulement la société coloniale, la société française occupant le Maghreb, mais également envers la société maghrébine traditionnelle, celle qui s'est fait envahir par le pouvoir colonial. Est-ce que je suis d'accord personnellement avec la thèse que présente ce livre ? Très honnêtement, je n'en sais rien. Je ne suis pas sûr que sa démonstration soit vraiment suffisante. Et bien entendu, il nous manque quelque chose, c'est-à-dire il nous manque des textes qui permettraient de nous faire comprendre directement, sans intermédiaire, ce que pensaient, ce que ressentaient les travailleuses du sexe dans ces pays et à ce moment. Bien entendu, là, on n'y peut rien. La majeure partie de ces des travailleuses du sexe indigènes étaient illettrées. La minorité qui avait peut-être des lettres ne semble pas avoir laissé beaucoup de témoignages, en tout cas pas suffisants. Et en matière de témoignages humains, on en est réduit, bien entendu, à quasiment uniquement des sources venant du côté français, du côté colonial. Quelques sources parfois sympathiques, mais bien entendu, la plupart du temps, plutôt des sources officielles, des rapports de police, des propositions de législation ou de réglementation. Néanmoins, on peut quand même se lancer dans une analyse de cet univers et l'hypothèse lancée par Christelle Tarot, qui est fondamentalement celle que les travailleuses du sexe ont été un élément de métissage entre les deux sociétés, la société traditionnelle et la société imposée, apportée par l'occupant, et que par ce métissage, ces travailleuses du sexe réussissaient jusqu'à un certain point à essayer de se libérer du carcan imposé par la société traditionnelle. Et ce qui manque un peu dans le livre de Christelle Tarot, c'est une discussion plus approfondie, mais elle est très difficile à faire en l'absence de sources suffisantes, entre ce qu'était le statut des travailleuses du sexe dans la société maghrébine traditionnelle et ce qui va se passer pendant toute la période coloniale. C'était By This River de Brian Eno et vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître ni publicité. Ce soir, c'est toujours Le Proton se rebiffe et nous parlons du livre de Christelle Tarot, sorti chez Payot, La prostitution coloniale, Algérie, Tunisie, Maroc, 1830-1962. Cette prostitution coloniale, eh bien, elle démarre dès la conquête de l'Algérie par les troupes françaises. C'est-à-dire que le premier service de police et de salubrité est créé à Alger le 13 juillet 1830, 8 jours à peine après la conquête. Et très rapidement, le 12 juin 1831, on a des documents qui commencent à poser des règlements sur la prostitution et qui vont, bien entendu, essayer, sinon de reproduire les règlements français, en réalité, il va se passer ceci, que l'avantage pour l'État français, c'est qu'il peut voir l'Algérie en particulier, mais aussi le Maroc et la Tunisie, comme une espèce de laboratoire où tester les idées qu'on se fait sur le contrôle de la prostitution. Ce contrôle de la prostitution va s'effectuer selon les principes de la concentration et de l'éloignement. En d'autres termes, on veut que les travailleuses du sexe soient en un lieu bien précis, bien délimité, de façon à ne pas, je cite, contaminer le reste des villes et du pays, et que ces quartiers, ces lieux réservés, soient relativement loin du centre des villes, afin que l'on épargne en particulier la jeunesse, les femmes non travailleuses du sexe, ou en tout cas non officiellement travailleuses du sexe, etc. Et évidemment, ça c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Je rappelle que par exemple à Paris, le plus vieux quartier prostitutionnel, la rue Saint-Denis, eh bien c'est une rue qui a été vouée à la prostitution, attention, par le roi Saint-Louis. Donc on parle des années 1240-1250, et Saint-Louis avait cette illusion qu'il pouvait concentrer toutes les travailleuses du sexe en un seul lieu. Et notons en plus que, en bon chrétien, se souciant du salut des âmes de ces demoiselles, il a fondé un couvent en plein milieu de la rue Saint-Denis, dans l'espoir que les travailleuses du sexe deviendraient des bonnes sœurs. On ne sait pas combien de bonnes sœurs sont devenues travailleuses du sexe. Glissons. L'une des raisons justifiable, pas juste une espèce d'abominable goût de la domination, l'une des raisons de ce désir de contrôle de la prostitution, c'est très simple, ce sont les maladies vénériennes. Et là, je vais citer le livre. Les chiffres annoncés par les médecins sont, il est vrai, impressionnants. En 1918, le docteur Lacapère signale que 75 à 90% de la population, il ouvre les guillemets, indigène, il ferme les guillemets, est frappée à des degrés divers au Maroc par la syphilis et la blénorragie. En 1923, il publie encore, sous le titre « La syphilis arabe », une synthèse des travaux médicaux sur la question qui parachève sa démonstration. S'appuyant notamment sur l'étude menée par le docteur Huguet au sein du dispensaire antisyphilitique de Marrakech, Lacapère annonce 90% d'accidents syphilitiques chez les indigènes des grandes villes de la région, Marrakech, Tiznit, Taroudante. À l'hôpital indigène de Mogador, sur un total de 60 000 consultations données à des musulmans dans l'ensemble de la région, 20 000 cas de syphilis, soit 33%, ont été relevés à la même époque par le docteur Bouvray. Alors bien entendu, ces statistiques, on ne sait pas très bien ce qu'elles valent, parce que annoncer qu'il y a 90% d'accidents syphilitiques chez les indigènes d'une grande ville, évidemment, ça n'était pas très solide du point de vue statistique. Ce qui est solide, c'est par exemple le nombre de cas réellement relevés dans un hôpital. Et là-dessus, il faut se méfier, bien entendu. La syphilis n'était bien évidemment pas un monopole du Maghreb. La syphilis est une maladie qui a ravagé l'Europe pendant au strict minimum 3 siècles. Et souvenons-nous que des gens pas du tout arabes, comme Flaubert ou Maupassant, sont morts de la syphilis. Toujours est-il que il y a, bien entendu, un mélange à la fois de véritables inquiétudes, d'inquiétudes justifiées de propagation d'une maladie vénérienne, qui se joint un fantasme raciste des populations indigènes à la sexualité débridée et aux constitutions totalement viciées par les maladies vénériennes. Et c'est la raison pour laquelle le pouvoir colonial va vouloir donc lancer cette politique de concentration et d'éloignement. Seulement voilà, ce pouvoir colonial, il débarque dans trois pays qui ont déjà leur propre, on va dire, structure prostitutionnelle. Et quelles étaient ces structures? Eh bien, tout d'abord, il n'y avait pas de quartier réservé. Il n'y avait pas de lieu où presque toutes les femmes sont des travailleuses du sexe et le reste des lieux de la ville sont interdits aux travailleuses du sexe. Ça, ça n'existe pas. Et puis, qui vont être et comment va être organisée la fourniture du travail sexuel dans ces sociétés maghrébines précoloniales? Eh bien, comme dans, ma foi, beaucoup de sociétés, il y avait un éventail extrêmement vaste qui allait, et ça ressemble assez d'ailleurs à ce qui se passait en Occident à la même époque. On a tout en haut de la hiérarchie, si l'on ose dire, on a des femmes qu'on pourrait appeler du vieux terme de courtisanes, donc des femmes qui savent danser, voire très 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 bien danser, qui savent chanter, qui savent cuisiner ou qui ont une cuisinière ou un cuisinier à demeure, et qui reçoivent des hommes chez eux et leur fournissent un service extrêmement complet dont le côté prestation sexuelle n'est que l'une des composantes. Ce sont des femmes que l'on demande également souvent pour égayer les mariages, les grandes fêtes, hein, les mariages. Hein, je dis bien, on commande des prostituées pour égayer des mariages. Glissons. Donc, ces courtisanes étaient des femmes relativement connues et on peut se souvenir de ce qui se passait dans tout le monde arabe avec les danses du ventre où une bonne danseuse du ventre, étant très souvent plus tard dans la soirée éventuellement une prostituée, eh bien, ces danseuses du ventre venaient danser devant les hommes. Je rappelle que la danse du ventre est quand même, toutes les danses sont sexuelles. La danse du ventre, elle est quand même très, 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 très ouvertement sexuelle. Et les hommes étaient censés récompenser une danseuse du ventre qui venait danser devant eux en lui collant sur son front en sueur des pièces, de préférence des pièces d'or, mais éventuellement des pièces de toute façon. Donc ça, c'est le haut du panier. Et puis, quel était le bas du panier? Eh bien, il n'était pas tant une prostitution, une espèce de spécialisation professionnelle de travailleuse du sexe, que quelque chose de, ma foi, pas terriblement rigolo non plus, à l'esclavage, tout simplement. Le monde arabe achetait des esclaves, alors principalement en provenance d'Afrique noire, mais on sait que il y avait eu pendant fort longtemps un commerce d'esclaves de femmes provenant, donc les circassiennes, c'est-à-dire provenant de tous les pays du Caucase, et c'était là le moyen sans doute le plus répandu dans ces sociétés précoloniales d'avoir des travailleuses du sexe. Et puis il y avait l'intermédiaire également, les concubines, donc des femmes dont le statut était relativement incertain, en tout cas précaire, puisque déjà une femme mariée dans le monde musulman, il suffit de prononcer trois fois la phrase « je te divorce » pour que le divorce soit effectif, et pour une concubine, bien entendu, il n'y avait aucune protection légale envers une concubine. Donc, le monde maghrébin précolonial n'est pas du tout un monde innocent à l'égard de la prostitution, et là-dessus, le livre cite par exemple quelques extraits de quelques textes décrivant le trafic qui permet la fourniture d'esclaves, de concubines et de concubines, mi-concubines, mi-prostituées, etc. Donc elle cite par exemple Henriette Sélarié. De bouche à oreille, on se chuchotait le nom d'un habitant de la ville, grand personnage d'ailleurs, qui s'est enrichi dans ce genre de commerce. Ses rabatteurs lui choisissaient des enfants toutes jeunes. Dans son palais, il les faisait décrasser. Quand elles savaient chanter, danser et plaire, elles étaient réunies par lot de quatre et vendues pour 64 000 francs à quelques riches Marocains désireux de peupler son harem. Donc, on voit que les sociétés précoloniales n'étaient absolument pas des sociétés naïves et innocentes en matière de prostitution. Signalons là-dessus que, et ça c'est quelque chose qui revient très souvent dans le livre de Christelle Tarot, que de même qu'il y avait évidemment une contradiction profonde dans les sociétés occidentales, dans les sociétés chrétiennes, entre la religion chrétienne officielle et puis le fait que pour un très grand nombre de femmes, être travailleuse du sexe était le seul moyen d'échapper à la famine, ou parfois d'échapper à la violence, ou encore était malheureusement une chute dans un univers d'esclavage et de violence, eh bien, dans les sociétés maghrébines, cet aspect religieux joue également. Et il joue de manière un petit peu surprenante, puisque, en particulier, dans l'imaginaire français colonial, bien entendu, les Français, les chrétiens, les Blancs, les Européens, comme on les appelait, par euphémisme, eh bien, étaient des gens supérieurs, avec une morale supérieure. Oui, mais ce que ces bons Français, Blancs, Européens, etc., oublient, c'était l'opinion qu'avaient les indigènes, les locaux, les natifs, à leur égard. Or, souvenons-nous bien entendu que l'opinion de l'Algérien colonisé moyen en 1890, par exemple, ou du Marocain moyen en 1890, c'est que les coloniaux français sont incontestablement supérieurs militairement et technologiquement, mais qu'ils sont des cochons, des chiens, des incroyants, des abominables roumis. Et c'est l'un des mérites surprenants du livre de Christelle Tarot, qu'elle nous montre que les sociétés maghrébines ont été profondément choquées par l'établissement, par la création justement d'établissements prostitutionnels officiels, où des travailleuses du sexe musulmanes rendaient des services sexuels à des hommes qui n'étaient pas musulmans. Et n'oublions pas en plus qu'il y avait, dans tout ce Maghreb, comme dans tout le monde musulman, il y avait des communautés juives. Et ces communautés juives, qui étaient bien entendu en règle générale organisées dans ce que nous appellerions des ghettos, les Juifs très souvent avaient quand même plus de liberté de circuler, très souvent, que leurs coreligionnaires dans la même situation en Occident. Et ce qui peut surprendre à nouveau si on se contente de savoir peu de choses sur ces diverses communautés, eh bien c'est qu'il y avait bien entendu aussi des prostituées juives. Et d'ailleurs, Christelle Tarot cite souvent un livre dont je recommande également vivement la lecture, qui s'appelle « Les chambres closes, histoire d'une prostituée juive d'Algérie ». L'auteur, c'est une dame appelée Germaine Aziz, aux éditions Nouveau Monde. Et ce livre est donc une autobiographie absolument stupéfiante, extraordinairement forte, de ce qu'a vécu donc une jeune demoiselle juive juste après la Seconde Guerre mondiale, avec un parcours hélas, banale. Elle devient orpheline. Et puis, elle se fait recruter par une dame qui lui promet monts et merveilles, mais évidemment, elle est envoyée rapidement dans des circuits de prostitution extrêmement violents. Il y a des pages absolument terribles dans le livre où elle décrit ce que c'est que d'être une pensionnaire dans une maison d'abattage. Et là-dessus, je voudrais tout simplement rappeler quelque chose, mais peut-être aussi quelque chose que beaucoup de gens ignorent, en particulier peut-être parmi les plus jeunes auditrices et les plus jeunes auditeurs. Nous, maintenant, après le sida en particulier, et avec notre connaissance des infections microbiennes, il semble absolument impossible d'avoir une prostitution où les clients ne portent pas de préservatif. Eh ben non. Dans toute cette prostitution coloniale que Christelle Tarot et Germaine Aziz décrivent, il n'y a pas de préservatif. Donc, évidemment, d'abord on comprend un peu mieux la panique par rapport à la contamination en maladie vénérienne, donc la syphilis, qui, je le rappelle, est restée extrêmement longtemps une maladie mortelle et une maladie absolument horrible. Un petit peu moins rapide, certes, que le sida, mais on s'en sortait absolument pas mieux, et les souffrances infligées étaient relativement comparables. Et également, donc, il y a des pages terribles dans le livre de Germaine Aziz, où elle décrit tout simplement ce que ça signifie que d'être pénétré par 30, 40, 50 pénis dans la journée, et en plus, sans le moindre préservatif. Alors, je ne suis pas une femme, mais je peux aisément imaginer l'abominable douleur qu'on doit éprouver, même pas en fin de journée, mais probablement très vite. Et puis, quand c'est quelque chose qui se répète tous les jours, pendant des années, on comprend que la condition de prostituée dans une maison d'abattage, dans un bordel d'abattage, était quelque chose d'absolument horrible. Et donc, je rappelle que tout cela se passait avec des travailleuses du sexe musulmanes, avec des travailleuses du sexe juives, et, on va le voir, avec des travailleuses du sexe en provenance des pays occidentaux qu'on envoyait dans ces colonies.
Oh, my God.
C'était « O Cantico do Pastor » de Madre Deus. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'est toujours « Le proton se rebiffe ». Et nous parlons ce soir du livre de Christelle Tarot, « La prostitution coloniale, Algérie, Tunisie, Maroc, 1830-1962 », paru chez Payot. Et je voudrais donc là lire un extrait de ce texte. « La fin de la conquête militaire installe une gestion raisonnée et productive des espaces et des hommes. Les confins sahariens, les montagnes de l'Aurès, de la Kabylie, du Rif et les régions d'agro-pastoralisme s'effacent devant le développement exponentiel des villes. Sommées de participer à ce développement, les campagnes subissent de plein fouet la promulgation de lois foncières qui modifient leur statut, tout en mettant en place un système de dépossession et d'appauvrissement des fellahs. La terre devient une marchandise comme une autre. Cette évolution intéresse aussi le marché du sexe. À Khamissa, la fière danseuse à qui les hommes appliquaient humblement et fiévreusement des pièces d'or sur le front et qui, par là même, imposait, tout en monnayant ses faveurs, un statut et un rang, se substituent Carmen, Fifi, Blanchette, filles de joie sans noms et sans visage, qui hantent les maisons de tolérance et les quartiers réservés des grandes agglomérations urbaines d'Afrique du Nord. Et le livre de Christelle Tarot qualifie même ces quartiers réservés d'une manière absolument très claire, usine à concentrer le vice. Je reprends la lecture. Égouts séminaux surdimensionnés. Les quartiers réservés indigènes offrent un raccourci saisissant des peurs et des fantasmes de l'Occident. Ils permettent de surcroît de séparer le bon grain de l'ivraie en élaborant une synthèse agressive entre le concept de classe dangereuse et le racialisme colonial. En ce sens, ils ne sont que l'aboutissement d'une politique entamée sous la Seconde République. Étraînés en 1848, au moment où la France expédie en Algérie un contingent de 13 000 sans-emploi parisiens dans le but d'assainir la capitale jugée trop turbulente et menaçante, cette politique aboutit, sous la plume de Victor Hugo, un véritable manifeste de la colonisation sociale. Allez, peuple, emparez-vous de cette terre. Dieu offre cette terre aux hommes. Dieu offre l'Afrique à l'Europe. Versez votre trop-plein dans cette Afrique et du même coup résolvez vos questions sociales. Changez vos prolétaires en propriétaires. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce jour-là, Victor Hugo n'était pas exactement inspiré. Puis, le livre de Christelle Tarot décrit longuement, de manière tout à fait précise, parce que là, Christelle Tarot a pu bénéficier d'archives administratives extrêmement précises, eh bien, elle décrit la construction d'un quartier réservé prostitutionnel à Marrakech. Et comment est-ce que ça se passe? Ben, ça se passe de manière tout à fait, raisonnable, du point de vue de l'administration, qui cherche à ce que l'État ne soit pas lésé, que l'hygiène soit respectée. Et il y a donc tout un mécanisme complexe où on va louer un terrain à des investisseurs qui vont promettre d'y construire des maisons selon des règles bien précises, et ils vont payer ensuite un loyer qui sera lui aussi déterminé par l'administration. Enfin, c'est absolument stupéfiant d'hypocrisie. Dans le livre, il y a quasiment une dizaine de pages qui racontent toutes ces péripéties administratives et commerciales entre une administration censée vouloir le progrès dans tous ses domaines et des margoulins qui flairent la très 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 bonne affaire. Puis, le livre décrit, physiquement parlant, ce qu'est un quartier réservé. Et là, l'exemple, c'est le quartier réservé de Casablanca. Alors, je commence la lecture. En passant la large porte d'entrée du quartier réservé de Casablanca, on pénètre en effet dans le centre névralgique du système réglementariste colonial dans son sein des saints. Mais avant de devenir cet archétype de l'économie du sexe planifié et canalisé, et de s'installer à l'extrême limite de la ville indigène en construction, Bousbir a d'abord été, de la vie générale, un quartier malfamé et populaire. Au début du XXe siècle, le quartier se compose d'une rue centrale assez large, au détour de laquelle s'organise une infinité de ruelles tortueuses bordées de petites bicoques blanches. Dans cette artère principale, qui fait office de rue réservée, on ne trouve que 3 ou 4 maisons à plusieurs pensionnaires. Le commerce, il reste plutôt fractionné et artisanal, à l'image de ce qui se passe dans les rues transversales, où chaque femme se prostitue dans sa propre habitation. Ce quartier est, à cette époque, la propriété d'un certain personnage qui se prénomme Prosper. Les Marocains prononcent Bousbir. Avec le temps, le quartier a fini par prendre le nom de l'homme. À l'extrémité de la rue principale, on trouve un poste de police. Les agents qui y sont en faction interviennent dans les nombreuses bagarres, rixes et batailles rangées qui éclatent sporadiquement. Fin de citation. Et tout ceci naît, bien entendu, d'idées occidentales relativement vieilles, et je vais donc reprendre la citation du texte de Christelle Tarot. Ce projet, dont l'essentiel peut être retrouvé dans l'ouvrage de Parents du Châtelet, de la prostitution dans la ville de Paris, considéré sous le rapport de l'hygiène publique, de la morale et de l'administration, a marqué en son temps un tournant très net dans la gestion de la prostitution urbaine. Car pour Parents du Châtelet, si la prostitution est un mal nécessaire, c'est qu'elle s'inscrit dans une réalité spécifique et englobante, celle de la ville moderne et déculturante. Il est donc intéressant de noter l'étonnante imbrication du couple prostitution-ville, qui s'opère chez lui par un tacite glissement sémantique. De la prostituée, considérée comme un élément d'instabilité, de désordre et d'agitation, à l'espace de la prostitution, donc à l'urbanisme, comment organiser l'espace prostitutionnel, puis de l'espace de la prostitution à la moralité du monde dans lequel s'exerce cette prostitution, la dangerosité. Mal nécessaire mais dangereux, la prostitution doit être contrôlée. Le discours réglementariste et hygiéniste s'enferme dans une terminologie précise et édifiante, enfermement, cloisonnement, digue. Plus loin, Christelle Tarot nous parle de ce que pouvait rapporter ce quartier réservé, cette usine où l'on concentrait le vice. Selon Roger Salardenne, écrit-elle, la location de Bousbir rapporterait chaque jour à ses propriétaires un billet de 1000 francs. Le calcul donnerait ainsi 466 filles soumises par 3 francs de loyer égale 1398 francs par jour, soit 500 270 francs par an. Cette somme globale annuelle répartie entre les 3 concessionnaires ferait 170 090 francs pour chacun, ce qui fait déjà pour l'époque une somme assez rondelette. Mais un rapport de 1935 signale que le prix des locations, indexé sur le revenu moyen des prostituées, a grimpé à 5 francs par fille soumise, ce qui donne une somme globale annuelle de 850 450 francs, à laquelle il faut ajouter l'argent provenant des loyers des commerçants installés à l'intérieur du café. Du quartier, pardon. 3 cafés morts, 2 cafés dansants, l'un avec danseurs chleux, l'autre avec danseuses orientales. Un café casse-croûte français, à l'enseigne de la République, composé de 4 pièces et d'un patio. Un cinéma dancing, un hammam, un salon de photographe, un débit de tabac et des épiceries, boucheries, boulangeries. Annuellement, ces loyers correspondent à une fourchette comprise entre 83 520 et 181 000 800 francs, ce qui donne une somme globale brute perçue dans l'année par les gérants d'au moins 1 million de francs à laquelle il faut retrancher les 43 200 francs de loyer annuel versé à la municipalité de Casablanca, les taxes et les divers coûts de construction et de fonctionnement. Au total, la société concessionnaire peut tabler sur un revenu annuel net de 714 000 francs. À présent, pour mieux comprendre ce qu'était le quotidien des travailleuses du sexe enfermées dans ces quartiers réservés, comme donc celui de Bouzbir à Casablanca, je voudrais lire un extrait du livre de Germaine Aziz, « Les chambres closes, histoire d'une prostituée juive d'Algérie » publié aux éditions Nouveau Monde. Et le voici. Alors, il faut comprendre que donc Germaine Aziz, elle écrit ce qu'elle vit dans sa jeunesse. Elle a été évidemment trompée, puis vendue, brutalisée, et elle se retrouve dans une maison d'abattage à Alger. Cela fait 3 ans que je fais 80 à 100 passes par jour. Les jours de marché, la file d'attente est interminable. Elle s'étend à l'extérieur de la maison. La sous-maîtresse fait entrer les hommes 3 par 3, puis referme la porte. Dehors, ils attendent patiemment. Sitôt le seuil franchi, ils sont tellement pressés qu'ils ne choisissent pas. Ils prennent la première disponible. Nos visages, ils ne les regardent même pas. Ils nous suivent, le pénis à la main. Malgré leur hâte, nous sommes obligés de presser le bout. Le pu qui coule est signe de blénorragie et nous les refusons le seul cas où cela nous est permis. Ensuite, il faut les laver. Les Arabes, ces jours-là les plus nombreux, sont d'une irréprochable propreté. Leur religion qui les circoncit les oblige de plus à de nombreuses ablutions. Il n'en est pas de même des Français qui souvent profitent de cette occasion pour se faire laver. C'est fréquemment un travail répugnant, forcé de décaloter puis d'ôter une croûte épaisse et écœurante. Les filles ne se gênent pas pour protester. « Tu pourrais au moins le faire avant de venir. » Il rit. « N'en voyons pas l'utilité, nous sommes aussi bonnes à ça. » Le soir, la chambre sent le sperme, la sueur, les pieds sales. Une odeur qui colle à ma nuit.
Questo stento, come fa l'acqua gatti in Lombardia, over d'altro paese che si sia, che forza il ventre appicca sotto al mento, la barba al cielo la memoria sento, in sullo scrigno e il petto fa dare via. E il pennello sopra il viso, tuttavia, me il fa gocciando un ricco pavimento. Thank you.
C'était la Pavane de l'Ange par Philippe Heidel. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'est toujours Le Proton se rebiffe, où nous parlons ce soir du livre de Christelle Tarot, La prostitution coloniale, Algérie, Tunisie, Maroc, 1830-1962, paru chez Payot. Alors, on vient de parler de ce qu'étaient les quartiers réservés. Le livre abonde en descriptions tout à fait techniques et précises de ces quartiers réservés. Mais ce qui va se passer, bien entendu, on le sait d'avance, ça ne marche pas. Non pas qu'il n'y ait pas énormément de travailleuses du sexe claustrées, il n'y a pas d'autre mot, enfermées dans ces quartiers réservés, mais bien entendu, les problèmes économiques, la domination, l'exploitation économique des femmes en général et des femmes indigènes en particulier dans les colonies, font que l'afflux vers le travail du sexe continue et que, bien évidemment, les travailleuses du sexe ont absolument pas envie de tomber sous la coupe des proxénètes qui tiennent les maisons de prostitution, les bordels dans les quartiers réservés, et pour celles qui peuvent éventuellement louer directement un local dans ces quartiers réservés sans passer par l'intermédiaire d'un proxénète, malgré tout, ce loyer reste très cher et les conditions de travail, si on peut dire ça, eh bien, restent extrêmement difficiles. Et cette sensation de claustration, d'incarcération vécue par les travailleuses du sexe dans les quartiers réservés des colonies maghrébines, eh bien, font que énormément de travailleuses du sexe veulent y échapper. Alors, là-dessus, heureusement, on a encore quelques témoignages. Et le livre de Christelle Tarot parle du racolage. Alors, qu'est-ce que c'est que le racolage? C'est tout simplement le fait, pour une travailleuse du sexe, d'essayer de recruter ses clients directement, sans passer par l'intermédiaire d'une maison close ou d'un proxénète. Et c'est le fait, alors, en Occident, en France en particulier, le racolage couvre deux activités principales. C'était ce que j'ai personnellement vu, moi, pendant ma jeunesse. C'était les prostituées qui se tenaient debout le long des murs, alors que ce soit rue Pigalle, que ce soit rue Saint-Denis, etc. Et puis, dans les villes et dans les cultures où ce racolage immobile, on va dire, et difficile à accomplir, eh bien, on pouvait aussi se promener sous l'apparence d'être une femme, entre guillemets, respectable. Mais bien entendu, dans les colonies maghrébines entre 1830 et 1962, se promener dans la rue pour une femme seule, c'était évidemment un petit peu compliqué si vous souhaitiez qu'en même temps, cette promenade vous amène des clients si vous étiez une travailleuse du sexe. Alors, va y avoir deux techniques un peu surprenantes qui vont être développées par ces travailleuses du sexe indépendantes et qui vont s'appeler le racolage à la cigarette ou le racolage au chapeau. Alors, je lis ce que Christelle Tarot en raconte. Dans les deux cas, le but de la fille est de dérober au chaland un objet personnel pour l'obliger à pénétrer à sa suite à l'intérieur du lieu où elle se prostitue. Lorsque vous passez devant une prostituée, elle se précipite sur vous et vous enlève votre chapeau et se sauve à l'intérieur de la maison. Comme généralement vous avez la faiblesse de tenir à votre couvre-chef, vous courez après la fugitive et pénétrez ainsi à l'intérieur du lupanar. Là, la belle vous annonce qu'elle ne vous rendra votre chapeau que lorsque vous aurez accepté ses faveurs. Il faut vous gendarmer pour rentrer en possession de votre galurin. Parfois, vous êtes obligé de lutter avec la voleuse. Si par malheur vous la frappez, elle se met à hurler, appelle au secours, crie à l'assassin, ameute tous les souteneurs du voisinage et provoque une bagarre où vous risquez fort de vous faire à la fois assommer et dévaliser, écrit dans les années 1930 Roger Salardenne. Christelle Tarot continue. Dans les quartiers réservés, le racolage est parfois immédiatement très agressif. On note que là, elle parle d'un racolage à l'intérieur des quartiers réservés. Les isolés indigènes, débarrassés de leur haïk, se tiennent au coin des ruelles en montrant leur visage au front et au menton tatoué. Et là, elle continue à citer d'autres auteurs, usant sans restriction de rouge à lèvres et de poudre de riz, ce qui donne à leur peau bronzée une teinte étrange, indéfinissable, cadavérique. Elles courent après les passants, les tirent par la manche, s'agrippent à leurs vêtements et les interpellent en sabir en des termes très choisis. « Hé, cochon, t'y viens ! Hé, saloperie, digoulas ! Hagimena ! Viens ici, saligo !» Fin de citation. Mais celle de Christelle Tarot continue. Dans ces cas précis, pas toujours isolés, les services de police ont théoriquement le droit d'intervenir en verbalisant ou en arrêtant les suspects. Ces interventions, au petit bonheur la chance, sont souvent mal vécues par les filles qui les considèrent comme abusives et arbitraires. Dans la plupart des cas d'ailleurs, la police des mœurs a bien des difficultés à différencier les filles publiques se livrant activement dans des zones non autorisées au racolage et celles qui ne font qu'adopter une position permettant à leurs clients potentiels de savoir qu'elles se prostituent. La frontière entre les deux est parfois imperceptible, comme pour les isolées et clandestines indigènes qui racolent au haïk, le haïk, je rappelle, c'est un grand vêtement, dans toutes les grandes villes d'Afrique du Nord. À Alger, dans les larges artères de la ville nouvelle, des femmes vêtues élégamment de la traditionnelle culotte bouffante de soie blanche et d'un large haïk soyeux qui leur couvre la tête, le visage et les épaules, racolent subtilement les passants. Elles ne se distinguent parfois des femmes honnêtes que par les bas de soie et les chaussures à hauts talons qu'elles portent, en lieu et place des babouches traditionnelles des classes moyennes ou des pieds nus des classes populaires. Cette seule concession faite à la mode européenne servirait à pimenter le mystère dont elle s'entoure, en garantissant à une clientèle masculine européenne en mal d'érotisme des mille et une nuits une atmosphère sulfureuse de clandestinité. Selon Roger Salardenne, Christelle Terreau ouvre les guillemets, en ne montrant que leurs yeux noirs, elles attirent en effet beaucoup plus sûrement le monsieur en rut que leurs collègues de la casbah à la face dévoilée, aux épaules nues et à la poitrine décolletée. Fin de citation. La technique de ces prostituées indigènes est d'ailleurs imparable. Arpentant les trottoirs à petits pas mesurés, à la recherche d'un client potentiel, ces dernières s'arrangent pour être remarquées et suivies pendant quelques instants. Après s'être assurées que le quidam est bien ferré, les prostituées font brusquement volte-face en laissant retomber, comme par inadvertance, un pan de leur voile. Avant de ramener pudiquement sur leur visage les haïks défectueux, les filles ont eu le temps de s'assurer que le client est prêt à leur emboîter discrètement le pas vers une maison de rendez-vous, un garni ou un hôtel de passe où il sera possible de discuter des conditions financières de l'opération. Nous allons terminer par ce qui semble avoir été vu par les travailleuses du sexe des colonies maghrébines de la France comme le pire de leur situation. Et ça va être un petit peu paradoxal, puisque ces lieux qui étaient considérés par les travailleuses du sexe comme les pires étaient vus en un sens comme des lieux qui travaillaient à la fois pour le bénéfice de la population générale, mais aussi en un certain sens pour celui des prostituées, parce qu'à nouveau, la syphilis et les maladies vénériennes, ça n'a jamais été très drôle et ça a été longtemps mortel. Et je veux donc parler des dispensaires. Parce que parmi toute la structure réglementaire mise en place par le pouvoir colonial au Maghreb, il y avait bien entendu des dispensaires qui permettaient de vérifier quelles étaient les travailleuses du sexe contaminées par une maladie vénérienne et par conséquent de leur imposer des traitements et la plupart du temps de leur imposer une espèce de quarantaine pendant laquelle on les hébergeait formelle jusqu'à ce qu'elles soient apparemment guéries. Et là-dessus, à nouveau, le texte de Christelle Torret est assez abominable. Voici par exemple ce qu'elle dit du dispensaire de Casablanca. « À côté de celui d'Alger, le dispensaire de Casablanca fait encore plus grise mine. Situé au fond du quartier réservé contre le mur d'enceinte, l'établissement se trouve en face du bureau de la police des mœurs, dont il n'est séparé que par la largeur de la ruelle. Au rez-de-chaussée, le dispensaire comprend une salle de désinfection génitale et de triage avec 20 bidets et autant d'injecteurs branchés sur un réservoir à liqueur de la baraque. Deux grands dortoirs pour les filles soumises indigènes, un réfectoire avec des tables basses et des nattes à la mode arabe, une cuisine, un office, une salle de douche pour les malades avec 6 appareils et 6 bidets, des lavabos et toilettes séparés pour les mauresques et pour les juives, deux chambres à 3 lits pour européennes avec WC, lavabos et bidets, une buanderie à l'usage des malades. À l'étage, on trouve encore le bureau du médecin, les salles d'examen, de pansement, de prélèvement, de stérilisation, avec autoclave, poupinelle, four électrique, la pharmacie, le laboratoire, le réfectoire et la cuisine des européennes, le logement de la surveillante et le vestiaire du personnel. Et ce que nous dit Germaine Aziz, dont j'ai déjà cité le livre un peu plus tôt, « Les chambres closes, histoire d'une prostituée juive d'Algérie » aux éditions Nouveau Monde. Voici donc ce que dit Christelle Tarot, et ensuite elle cite Germaine Aziz. La première activité du dispensaire, mais aussi la plus unanimement décriée, est de procéder aux visites sanitaires obligatoires. Alain Corbin a montré combien cet examen gynécologique des organes sexuels féminins pouvait être perçu comme une atteinte à la pudeur, voire comme un véritable viol, par les filles soumises françaises. L'impact de ces visites sur les prostituées indigènes, forcées de se soumettre à un examen génital généralement pratiqué par un médecin roumi, ne peut être clairement évalué, faute de sources et de témoignages. Il est probable cependant que l'application musulmane de la visite médicale a fait l'effet d'un séisme au sein de la population maghrébine. À Tunis, en 1891, l'ensemble de la politique coloniale de contrôle sanitaire est d'ailleurs symboliquement appelé « loi de la visite ». En dehors de cet aspect collectif, il apparaît que la visite est aussi perçue par les filles comme un élément déterminant de leur déshumanisation et de leur stigmatisation. L'examen, qui concerne habituellement la vulve, le vagin, le col de l'utérus, les lèvres et l'intérieur de la bouche, est pratiqué à la chaîne, dans une promiscuité dégradante et malsaine. Voici ce que Germaine Aziz écrit dans les années 1950 à propos de la visite sanitaire du dispensaire de Beaune. Dans cette petite pièce, à peine propre, où rôde une vague odeur d'hôpital, c'est un étalage de vagins béants, de chairs offertes dans leur nudité la plus crue, sous les yeux d'un médecin indifférent, aux gestes machinaux. Il n'a pas un regard pour le visage de cette femme écartelée sur les étriers. Au bordel, il nous reste un prénom, un signe particulier, un surnom. Ici, nous ne sommes que des sexes.
Thank you.
c'était Struggle for Pleasure de Wim Mertens. Et l'émission, bien, c'était le Proton se rebiffe qui parlait du livre de Christelle Tarot, La prostitution coloniale Algérie-Tunisie-Maroc 1830-1962, paru chez Payot, ainsi que du livre de Germaine Aziz, Les chambres closes, histoire d'une prostituée juive d'Algérie, paru aux éditions Nouveau Monde. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste sans Dieu, sans maître et sans publicité. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouverai pour le prochain Le Proton sur Rebif, comme d'habitude, tous les troisièmes lundis du mois à 21h, ainsi que pour Les Muses s'amusent, tous les premiers lundis du mois. Bonne soirée.
Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste
et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
Encore, et voici que je t'aime encore.
L'air slave, j'ai l'air slave,
Je suis né à Ville-d'Avray, mes parents étaient bien français, ma mère s'appelait Jeanne et mon père Victor.
Moi je m'appelle Igor.
Mon prénom n'évoque pas le Languedoc, plutôt moscovite, il est explicite.
Ouais.
Quand on m'imagine, on voit ta ballerine qui s'apprête à boire à son samovar. L'air slave, j'ai l'air slave. Et ça me poursuit depuis tellement longtemps que je suis devenu slave malgré moi et sans m'en apercevoir. L'âme slave. J'ai l'air slave. J'ai jamais été plus loin que la barrière de Pantin. Tout ce que j'ai de russe en moi c'est le prénom. Mais ça suffit bien. Oui, à force d'entendre
ouais.
tous les gens me prendre
ouais.
pour russe authentique,
ouais.
j'en ai tous les tics.
Yeah.
J'habille de Zakus,
ouais.
je bouffe des pioches,
ouais.
je bois de la vodka
ouais.
au milieu des repas. L'âme slave, j'ai l'âme slave. Je suis tellement influencé par mon prénom qu'à toutes les fenêtres de la maison, je viens de faire mettre des rideaux de fer. Mais je les laisse ouverts, j'ai l'âme slam.
Ouais.
Chevaux, pavés, sabots glazés, sabots, chevaux et routes. Chevaux et nuits, aux grands chevaux levés, à l'horizon, dans les soleils qu'ils broutent. J'ai des chevaux qui traversent mes flammes, foulant ce feu comme un herbage vert. J'ai des rumeurs de chevaux dans mes drames, tout un arroi de galops et de fer. Chevaux toujours, l'aurore est un cheval, qui s'ébroue en chasse au loin les corneilles. J'ai des chevaux pour émir tout mon mal, et des poulains où mes amours s'éveillent. Faire un destin mes doigts dans les crinières, et respirer sueur, paille et fougère, l'arôme noir des profondes litières, comme l'odeur des âges légendaires. Sceptres et cœurs, triomphes et famines, rougeuses adieux portés sur des juments. Je vous contemple et vois qu'éperdument fulgure aux cieux la race chevaline.
Radio Libertaire 89.4.
Si belle, montrant ses jambes à tout un café. C'est pas que je me le rappelle.
C'est le patron qui m'en a parlé. Maintenant j'ai tout juste le droit à une grande scène quand je rentre le soir. Pas bonjour, ni même bonsoir. Et toujours la même histoire. Tu finiras par crever. C'est pas avec ce maudit comptoir que tu as fait vœu de te marier. Il y a des fois, ses amis viennent me surveiller. Faut dire que lorsque je bois, y a pas grand chose qui peut m'arrêter. Ces petits potes du KGB de lui raconter nombre de demi enquillés et les conneries racontées. Y'en avait, tu finiras par crever dans tous ces troquets. C'est pas avec ce maudit comptoir tu as fait vœu de te marier.
C'est René, c'est pas Monique. Un qui s'y frotte, une qui s'y pique. Mais c'est pratique avec Monique. On a l'Arctique en Antarctique. Premier étage, on n'a pas l'âge. Dans l'ascenseur, j'ai mal au cœur. Toutes les heures, moi j'ai envie de lui. Mais lui, il est pas de mon avis. J'arrive à grimper plus haut, j'y verrai mieux que de bas en haut. Si je descends un peu plus bas, j'y verrai mieux que de haut en bas. Monique panique, sur quoi tu niques? Tu vois donc pas que t'es sur mon char. En élastique, vas-y Monique, mets du fracas dans les ébats. 30e étage, je suis en âge d'aimer les fleurs, quelle que soit l'heure. Je m'offrirai tout ce qui m'est interdit, depuis l'enfer jusqu'au paradis. Si j'arrive à grimper plus haut, j'y verrai mieux que de bas en haut. Si je descends un peu plus bas, j'y verrai mieux que de haut en bas. Font toujours le jour et la nuit. T'as pas vu l'heure, mon amour, mon chéri. J'ai envie d'elle ou j'ai envie de lui. Elle est René, il est Monique aussi. Si j'arrive à grimper plus haut, j'y verrai mieux que de bas en haut. Si je descends un peu plus bas, j'y verrai mieux que de haut en bas. Monique!
Sous les urnes, elle compte Nadège. Ses petits sourds sont des enclumes. Tant de sentiments. centimes, elle se déplume. À 20 000 lieues sous les urnes, elle rage, Nadège. De sa colère baisse le volume et monte celui de la rancune, Nadège. Et sans conviction aucune, Nadège. Bouteille perdue dans la lagune, remontera-t-elle jusqu'aux urnes, passée dans le bal des costumes, sa petite voix, Nadège.
Quand j'étais gosse, j'étais pas un colosse, mais j'étais déjà le plus drôle de toute l'école. Un jour d'été, pour vous prendre un exemple, notre maîtresse, une beauté, le genre 40 ans vous contemple. Bref, un lundi où elle nous dit que Napoléon s'était planté à Waterloo. Une heure plus tard, elle passait à vélo, pont Saint-Édouard. Elle s'est foutue à l'eau avec mon air de rien. J'avais scié les freins. Je suis pas le gendre de la mélancolie. Comme disait, je ne sais plus qui, encore un qui a pris le maquis dans ma mémoire. J'ai tant de tours, j'ai tant d'histoires. Ma vie est une farce et attrape. Y'a qu'une chose qui me frappe, c'est que je suis tout seul la nuit. Ça, c'est marrant. Marrant, ça. Au régiment, j'en ai fait de fameuses. Les balles factices pour l'exercice de mitrailleuse. Je les enlevais et j'en mettais des vraies. Et dans la soupe qui sait le soir, qui mettait des lames de rasoir. Y en a que ça ne m'amusait pas, y en a toujours qui n'ont pas le sens de l'humour. C'est comme les femmes qui n'ont pas le sens de l'amour. Ça, c'est un drame. Pourtant quand elles me quittent tout seul derrière la vitre, je fais encore le pitre. Je suis pas le gendre de la mélancolie. Comme disait, je ne sais plus qui, encore un qui a pris le maquis dans ma mémoire. J'ai tant de tours, j'ai tant d'histoires. Ma vie est une farce et attrape. Y a qu'une chose qui me frappe, c'est que je suis tout seul la nuit. Ça, c'est marrant, ça. Marrant, ça. Ma jolie femme, puisqu'on parlait de femme, avec un autre, elle est heureuse, la malheureuse. Évidemment, sans moi, elle s'effeuille. Demandez même à son amant, j'ai fait leur lit en portefeuille. Je lui ai tiré dans le cœur, c'est la meilleure. Avec un pistolet à eau. Et si un jour je me jetais d'en haut, ça c'est l'amour. Mais je ne le ferai pas, ou alors pour sauter, je mettrai mon faux nez. Je suis pas le gendre de la mélancolie. Comme disait, je ne sais plus qui, encore un qui a pris le maquis dans mes histoires. J'ai tant de tours, j'ai plus de mémoire. Ma vie est une farce et attrape. Y'a qu'une chose qui me frappe, c'est que je suis tout seul la nuit. Ça, c'est marrant. 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 C'est marrant, ça. Comprennent pas que je suis toujours drôle et puis se marre pas. Je tout seul la nuit, des tout.
Et totoratatou, c'est pour 100 sous mon toutou, vise la réclame.
on s'avance, ça fédère, on s'ablanchit même.